Allons au fait par Régis Debray, le religieux mi-honnête.
Que faut-il entendre par croyance ? La République, par bonheur, respecte toutes les croyances. Mais la croyance même, tenue pour une faiblesse, n'est guère prise au sérieux par nos penseurs, comme si nous n'étions pas tous en dette avec cette faculté capitale, sans laquelle nous n'aurions ni avenir, ni société, ni entreprise. Savoir et croyance ne se font pas concurrence. Rendons à chacun son dû. On l'oublie trop souvent, mais le monde où l'on vit n'est pas le monde où l'on pense. Pour les têtes pensantes, par exemple, il est mal vu de croire et vivement conseillé de savoir. Depuis Platon, le philosophe met la croyance sur la sellette. C'est à ses yeux une maladie de l'esprit, le mauvais objet, disons le degré zéro de l'intelligence. Et c'est vrai, j'ai cru avant de raisonner, c'est le sort de l'humanité, on n'y peut rien. Mais la crédulité, c'est ce dont l'adulte instruit, s'extrayant de l'enfance, doit à tout prix se défaire. Comment ? Eh bien, grâce à la science, qui est une machine à décroire, et à nos facultés critiques, qui nous arrachent au compte de nourrice. Mais dans le monde où l'on vit, en revanche, le vôtre, le mien, chaque geste, chaque parole suppose un petit acte de foi. Quand je dépose un chèque à la banque, ou encore plus risqué, un bulletin de vote dans l'urne, quand je me rends à un rendez-vous qui m'a été donné d'un mot la veille, quand je tiens pour réel ce que je lis dans le journal, ou quand je m'adresse à mon fils comme étant véritablement mon fils, eh bien je fais confiance, spontanément. Je tiens par exemple sur sa bonne mine tel candidat pour crédible, et j'escompte bien que le billet en papier que j'ai en poche peut s'échanger contre un vrai paquet de cigarettes. D'ailleurs, sous la Révolution, un assignat s'appelait un billet de confiance. Mais si quelqu'un vient me traiter de gogo irresponsable parce que je donne ma créance à gauche et à droite sur de vagues espoirs, gageures, conjectures, présomptions, bref, rien de sérieux, rien de vérifié, eh bien je me rebiffe, je proteste. Mon amour-propre est blessé. Je m'aime en savant, vrai ou faux, en critique, en rebelle, en suspicieux, en goguenard, mais en croyant, alors non. Croyant, synonyme, jobard, benêt, bigot, mystifié, manipulé, intoxiqué, enfin tout ce qu'il ne faut pas. Preuve en est d'ailleurs que nous ne parlons bien que des croyances que nous n'avons plus. Quand une croyance vide sa belle vie, disait Nietzsche, les croyants ne savent pas qu'ils croient, ils font ce qui se fait, point final. Au fond, il n'y a que les curés qui mettent le verbe croire à l'indicatif. Un esprit libre, un esprit fort, disons un intellectuel, ne le conjugue qu'au passé ou à l'imparfait. J'ai cru dans la grande lueur à l'Est, dans le programme commun, dans François Hollande, mais maintenant, je sais à quoi m'en tenir. Et non, je crois savoir. Nous ne sommes lucides qu'envers nos aveuglements passés. Quand ils sont au présent, on les appelle des libres opinions ou des points de vue. Et ils se publient sous forme d'éditorial dans le journal du soir. Et puis au fond, ce sont toujours les autres qui croient. Les autres, les pecnos, les simplets, il y en a qui disent, il y en a qui croient. Mais moi, je vais vous dire. En somme, il n'y a que les primitifs et les étrangers qui ont des croyances. Et c'est normal. Ils ont des mœurs un peu bizarres. Nous, les modernes, nous voyons les réalités telles qu'elles sont. Et on n'a pas des mœurs, on a un mode de vie. Et qui va de soi. Alors, on veut bien avoir des sociologues sur le dos, mais des ethnologues, non, ce serait vexant. Le savoir qui s'en tient au fait, sans valeur ajoutée, c'est chez nous. en France, en Occident. Le n'importe quoi, sans rappel des fêtes, c'est chez eux. Je schématise, mais au fond, c'est bien le fond du décor. Allez, il faut s'y faire. Ce qui compte le plus dans notre vie, c'est à quoi le penseur pense le moins. Maintenant, je dois vous le dire d'emblée. Tout mécréant que je sois, ne croyant ni à Dieu ni à diable, je suis très loin de partager ce vieux complexe de supériorité envers les croyances. Je suis très loin de partager le programme de ce que j'appellerais le petit rationalisme Troisième République. Rassurez-vous, il en existe un grand. Le programme, c'était extirper la croyance, et partout où un mythe a poussé cette mauvaise herbe, on plantera une connaissance à la place. Alors, avant de me faire l'avocat d'une cause suspecte, hein, parce que je sais bien que je traverse pas dans les clous, je commencerai par une observation. Les redresseurs d'illusions, les détecteurs de mensonges, les démystificateurs professionnels sont des gens très bien, mais en général assez myopes et un peu désinvoltes. Ils regardent nos errements, nos croyances du haut d'un belvédère, dans un smog rhétorique où toutes les vaches au fond de la vallée sont grises. Alors que il y en a de toutes les couleurs. Vous savez, pour aborder en géographe le continent croyance, on a besoin d'un nuancier pour ne pas s'y perdre. On a besoin d'un petit esprit de finesse. On a besoin d'une échelle avec beaucoup de barreaux pour aller, disons, de la foi tout en haut à la simple supposition tout en bas. On a besoin d'une oreille un peu exercée afin de ne pas confondre un « je crois que, je crois que, je crois qu'il va pleuvoir demain », qui est une croyance empirique, avec un « je crois à la théorie du Big Bang », qui est une croyance intellectuelle. Et puis, encore plus haut sur l'échelle, « je crois en », qui est une croyance morale. « Je crois en toi », « je crois en vous », « je crois en Jésus-Christ ». Vous voyez qu'on doit pouvoir distinguer, quand vous recevez une lettre par exemple, si c'est écrit en bas « Veuillez croire à mes sentiments respectueux », bon, ne vous méprenez pas, c'est une formule de politesse. Mais si vous lisez « Veuillez croire en mes sentiments d'amitié ou de respect », alors là, vous pouvez y aller, vous pouvez faire confiance. Hein, croire en, c'est plus que croire à. Vous voyez que il y a beaucoup de régimes de croyances. Et au fond, ça devrait nous inviter à nettoyer un peu notre vocabulaire et à bien distinguer entre une simple conjecture, une vraie certitude et une profonde conviction. Une conviction dont je ne démordrai pas. Disons, entre une opinion qui ne m'engage à rien, je peux en changer demain et je dirais alors que je me suis remis à jour. Et puis, une profession de foi qui engage une existence. Et si j'en change, là c'est un drame. On me traitera de renégat, de défroqué, de retourneur de veste. Alors vous voyez que il faut vraiment bien distinguer quand on parle de croyance. Et il me semble qu'on est devenu, sur ce point, nous les rejetons des Lumières, à qui on ne l'a fait plus, on est devenu un peu balourd au fond, hein, un peu simpliste. Au Moyen-Âge, par exemple, le Moyen-Âge c'était l'obscurantisme, hein, on est tous d'accord. Mais on était beaucoup plus délicat dans le choix des mots pour ce domaine qui est plein de choses trappes. Par exemple, excusez-moi, je vais vous parler latin, mais ça va être un latin de cuisine. Au Moyen-Âge, on distinguait entre credere Deo, croire en ce que Dieu nous dit, Deo, un datif, credere Deum, un accusatif, croire que Dieu est Dieu, et credere in Deum, croire en Dieu, c'est vraiment se donner à lui, c'est s'incorporer à son corps mystique, l'Église. Vous voyez que, même à l'intérieur des énoncés de foi, le Moyen-Âge, au fond, qui a beaucoup prouvé, beaucoup plus qu'il n'a cru, le Moyen-Âge distinguait plusieurs degrés de vérité. Il y avait les vérités révélées, disons, par les Écritures ou par le Coran. Il y avait les vérités autorisées par les pères et les consuls ou par les hadiths. Il y avait les Écritures authentifiées, garanties par le statut de l'énonciateur, si c'est un clerc ou un imam. Et puis il y avait les vérités alléguées, c'est-à-dire sans garantie connue, le on-dit. Voilà, tous ces dégradés, vous voyez, ça donnait du jeu. Ça donnait du jeu à nos obligations sociales et au fond, tout cet arc-en-ciel, ça donnait du piment à la vie quotidienne. Alors je m'en voudrais de pinailler, mais enfin, tous les assentiments donnés à de l'invérifiable ne se valent pas. L'opinion, ça me fait penser qu'une assertion est vraie, tout en admettant d'ailleurs que d'autres puissent en douter. Une hypothèse, ça ne reconnaît pas le caractère intellectuel et logique d'une vérité. Une certitude, là je tiens un jugement pour vrai sans aucun mélange de doute. Mais une conviction, c'est une certitude ferme et suffisante pour l'action, mais qui ne prétend pas à une rigueur complète. Alors, voyez-vous, il y a des dégradés. Le vraisemblable, c'est moins que le probable, et c'est plus que le plausible. Oui, il y a bien tout un arc-en-ciel, hein. D'ailleurs, au terme d'une enquête sur la valeur logique du mot, Wittgenstein, le philosophe, disait que la croyance est un état psychique individuel insaisissable et résistant à la définition. Oui. D'un point de vue purement logique, on peut dire que le mot est vide de sens. Mais attendez, ce logicisme, ce purisme logicien et philosophique, eh ben, il évacue le vécu et en particulier la vie en société. Si le sens des mots nous est donné par leur utilisation, oui, c'est vrai, la croyance foisonne de sens, c'est une notion introuvable, avec toute une constellation d'usages et d'effets. Elle est plus que féconde, elle est vitale à tous les sens du mot. Et quand Descartes, dans sa deuxième règle pour la direction de l'esprit, dit rejeter toutes les connaissances qui ne sont que probables, hein, je cite, toutes les connaissances qui ne sont que probables, et ajoute qu'il a décidé de ne donner son assentiment qu'à celles qui sont parfaitement connues et dont on ne peut douter, fin de citation, eh bien, le père Descartes, si j'ose dire, il sépare totalement l'esprit du corps. Parce que le corps, il n'avance qu'à tâtons, et dans le clair-obscur, jour après jour, de conjecture en conjecture, en naviguant entre le plausible, l'éventuel, le vraisemblable. Bref, si on est cartésien, au sens rigoureux du mot, on a une vie impossible. Alors c'est vrai que la croyance, ça manque un peu de légitimité, surtout quand on a le culte de la volonté et du libre arbitre. Pour une raison toute simple, c'est que les croyances, ça nous colle. Ça colle à tous les sens du mot. La plupart de nos croyances, nous ne les avons pas vraiment choisies. C'est notre milieu qui nous les flanque, ou notre famille, ou notre hérédité. Ce qui est assez vexant, finalement, pour l'ego, pour la fierté d'être un individu pas comme les autres. Valérie disait « Les sots ont ceci de commun avec les éponges qu'ils adhèrent. » Alors le spongieux, c'est pas très valorisant. C'est pourquoi d'ailleurs, on veut sauver la face. Et dans toutes nos adhésions, on va augmenter, disons, la part de l'acte conscient pour diminuer d'autant la part de l'adhérence. Parce qu'une adhésion, c'est volontaire, une adhérence, c'est involontaire, une adhérence, c'est l'éponge. Il faut être vraiment Montaigne pour admettre sans rougir qu'on est chrétien comme on est périgourdin. Pour admettre que le plus clair de ce qu'on pense, ça nous vient de notre bocal, comme le poisson. D'où le prestige qu'il y a dans le mot de conversion, parce qu'alors, ma croyance, je l'ai choisie. Ou au pire, ou au mieux, elle m'a choisi. Telle heure, telle date, derrière un pilier de Notre-Dame, comme pour Claudel. Là, une conversion, c'est noble. Et on sait qu'un homme moderne, et alors encore plus s'il est post-moderne, il doit pouvoir choisir tout ce qui fait son identité, son milieu, son genre, son habitat, sa famille, tout, et même sa langue. Vous vous souvenez que Roland Barthes disait « la langue est fasciste ». Curieux. Mais vous savez pourquoi elle est fasciste ? Parce qu'elle m'est imposée. Parce que je la reçois en héritage. Je n'ai pas choisi de parler français. C'est une sorte d'oppression, disait-on à l'époque de Monsieur Barthes. Ce n'est pas du tout ce que je pense. Parce que, à vrai dire, cette croyance si mal famée aux yeux de nos esprits forts, je crois qu'il faudrait d'abord lui signer une reconnaissance de dette. Pour trois motifs. Si nous n'avions pas, non la faiblesse, mais la force de croire, nous n'aurions pas d'avenir devant nous, nous n'aurions pas une société où vivre, et nous n'aurions pas d'action à entreprendre. Disons que l'incroyance absolue, c'est un luxe de légumes, et qu'on aurait tort d'en abuser, sauf à vouloir sécher sur pied et devenir un légume. Donc je reprends tout ce qu'on doit à la croyance. Primo, une croyance, ça fait respirer le temps, ça desserre les taux du présent. D'ailleurs, credo, je crois, en latin, credo, ça vient d'une racine indo-européenne, cred, qui désigne le fait de donner une chose à quelqu'un avec la certitude de la récupérer plus tard. Je fais une offrande à un Dieu, auquel je crois, avec l'idée que le Dieu va me rétribuer. Il me le revaudra un jour. Donc je fais crédit, je prends une créance sur l'avenir, je passe un contrat avec le futur. Comme on dit, do ut des, je donne pour que tu me donnes. Disons que le donateur d'aujourd'hui, il sera bénéficiaire demain. Donc, de celui en qui ou de cela en quoi je crois, j'attends une rétribution en différé. J'en fais sans le dire mon débiteur, sûr qu'il s'acquittera un jour de sa dette. Autrement dit, un croyant est un homme en attente. Il se donne de l'air en mettant ses verbes au futur, comme Clémenceau le reprochait à Jaurès, vous vous souvenez de cette phrase fameuse. Monsieur Jaurès, vous mettez tous vos verbes au futur. Oui, parce que Jaurès était un croyant, un pénitent. Croyant dans l'avenir, peut-être même croyant en Dieu. D'ailleurs, enfin, je laisse ce point de côté. Alors évidemment, c'est pas la même chose d'attendre le Messie et d'attendre sa pension de retraite. Et je ne confondrai pas le prophète avec le prévisionniste. Je ne confondrai pas l'enthousiasme soulevé par le prophète et l'intérêt plus ou moins poli suscité par une prévision météo. Disons que le prophète croit assez dans ses pronostics pour monter à cheval et partir à la conquête du monde. Le prévisionniste, il n'y croit pas assez pour sortir de son bureau. Mais enfin, les deux aèrent la cellule. Ils rendent la prison respirable et on devrait leur en savoir gré. Secondo. Un croyant n'est jamais seul. Et au fond, on croit pour ne plus être seul. J'y crois pour en être, parce que mon voisin y croit aussi. C'est pas toujours facile de croire, en dépit des réalités, envers et contre tout, mais c'est un plus, malgré tout. Pourquoi c'est un plus ? Parce que c'est épouser une communauté et rentrer dans l'orchestre. Et d'ailleurs, qui est doué pour la croyance est doué pour l'amour. Voyez, Aragon, qui a cru dans le communisme, Éluard aussi, ou même Apollinaire, qui croyait dans l'art et qui était tout le temps amoureux. Disons que le croyant, il est doué pour l'effusion, pour le relationnel, comme on dit aujourd'hui, pour le coude à coude. Alors si vous dites à un croyant, c'est idiot ce que vous croyez, d'ailleurs ce que l'on croit n'est jamais vrai, c'est Valéry qui l'a dit. Ben, il vous répondra peut-être, oui je sais bien, mais quand même. J'ai un toit pour m'abriter et des frères et des sœurs pour me tenir chaud. J'ai un parti, j'ai une église, j'ai une confrérie, j'ai une mouvance. Votre vérité, elle est froide et elle ne me rapporte rien, alors que ma croyance m'augmente. Elle me rend fier d'être ce que je suis parce qu'elle m'assure une appartenance. Elle m'insère dans un nous beaucoup plus grand et fort que moi, le nous de tous les croyants à la même croyance que moi. Donc, vous pouvez dire que les religions, les idéologies sont des mythes. Ouais, mais des mythes au service à chaque fois d'une société d'entraide et d'admiration mutuelle, que s'agisse de l'islamisme, du communisme, du fascisme ou d'autres ismes. En d'autres termes, si vous voulez, pour être plus savant, la logique du collectif ne relève pas de critères cognitifs. Les déradicalisateurs d'aujourd'hui devraient s'en souvenir. Toutes les administrations pénitentiaires le savent bien, il ne faut jamais laisser ensemble les croyants d'une même cause. Il faut les éparpiller en plusieurs centres de détention. Quand le groupe se démembre, la croyance décline. Tertio. Troisième dette. Croire, c'est se mettre en mouvement. C'est sortir de la passivité et de la résignation. Dire que nous croyons en quelque chose, c'est dire que nous ferons quelque chose. Alors une croyance, qu'elle soit ou non fondée, ça induit une conduite. Et sa raison d'être, au fond, est à chercher dans l'action à quoi elle dispose et dont elle peut assurer la réussite. Disons que là où naît une croyance, il y a du contagieux en formation, parce que la croyance est contagieuse. Mais il y a surtout des coups de main en préparation. Vous allez me dire que une action réussie, ça prouve rien quant au bien fondé, rationnel ou à la valeur morale d'une croyance. Le martyr n'est pas une preuve. C'est pas parce que vous faites manger par les lions que Dieu existe. C'est pas une preuve, le martyr. La cathédrale non plus, d'ailleurs. Mais enfin, si un pays veut gagner la guerre, il a intérêt à ne pas mettre un sceptique à la tête des armées. C'est parce que je crois que le ravin n'est pas si grand qu'il n'en a l'air. Hein. Je marche une randonnée en montagne, et celui qui est devant moi me dit « Non, tu peux sauter, c'est pas si profond que ça ». Donc c'est parce que je crois que le ravin n'est pas si grand et que je fais crédit à celui qui m'assure qu'il n'est pas si profond que ça, que tout d'un coup j'ai l'audace de sauter par-dessus. Sinon, j'aurais pas sauté le pas, comme on dit. Et voilà, c'est toute la différence, si vous voulez, entre l'accompagnateur et le précurseur. L'accompagnateur, c'est le politicien. Ordinaire, c'est celui qui n'a pas de conviction et qui s'en tient de façon très réaliste. Un calcul des forces en présence, pourquoi ? Parce que ça va lui permettre de rallier le plus offrant à court terme. Un précurseur, un pionnier, lui, il a plutôt intérêt à entendre des voix comme Jeanne d'Arc. Car au fond, s'il s'en tenait aux probabilités ou aux rapports de force immédiats, il baisserait les bras, il resterait chez lui. Donc croire, c'est s'abstraire de son environnement, c'est prendre du champ, et s'abstraire, c'est prendre des risques. Rassasiez vos âmes de Plutarque, disait Nietzsche, et en croyant à ces héros, vous croirez en vous-même. Oui, c'est une méthode couée peut-être, mais qui a fait ses preuves. Disons plus simplement, l'homme de cœur va peut-être dans le mur, mais au moins il y va. L'homme de tête voit plus clair, mais il reste en arrière. Donc chacun sa spécialité, chacun sa vertu. Il y a une preuve à contrario de tout ce que je vous dis. Pour savoir ce qu'il en coûte de ne croire finalement en rien, en cabotant et en cabotinant tout près des côtes, sans longue vue ni conviction, il suffit de regarder autour de nous. La France qui n'y croit plus, je parle de la France d'en haut mais aussi de celle d'en bas, c'est un mélange de chacun pour soi et de maintenant tout est maintenant. Donc on n'attend plus grand-chose, on prend plus beaucoup de risques, et on ne se tient même plus les coudes. Ça s'effrite de partout. La fraternité est en souffrance, l'avenir aussi, le goût du risque. Mais on reste très intelligent, on connaît les chiffres par cœur, et on ne se raconte plus d'histoire. Scepticisme de masse, méfiance généralisée, désintox et fact-checking, vérification des faits. On nous trompe, on nous ment. Résultat, une grosse déprime. Elle reviendra pour sûr, la foi en quelque chose, c'est dans nos gènes. C'est dans nos gènes de toujours nous référer à des possibles, à des absents, à des futurs. C'est un fait que les faits ne nous suffisent pas. Notre cerveau est ainsi câblé qu'il ne peut s'empêcher d'alléguer des choses derrière les choses et qui ne sont pas des choses sans pourtant être rien. Cette faculté, disons, il est vraisemblable qu'elle ne se rencontrait pas il y a 800 000 ans d'ici dans un encéphale d'hominidé. Un encéphale d'hominidé, c'est 700 cm3. Bon. Disons que depuis un demi-million d'années, notre cerveau a triplé de volume. Alors, est-ce qu'il faut situer l'émergence des croyances au moment de l'apparition de la sépulture ? Qui prouve bien qu'on fait référence à quelque chose qui n'est pas là. Après l'Homo erectus, avant l'Homo sapiens, vers 50 000 ans avant notre ère, je ne sais pas. Aux spécialistes des neurosciences et aux paléo-anthropologues de dater l'émergence de notre folie douce. Mais ce qui importe, c'est de bien voir que dans la condition humaine, dans un plein, il y a toujours un creux. Dans un jadis ou un demain, il y a toujours quelque chose de plus qu'aujourd'hui. Il y a toujours dans un bonheur une espérance, un regret ou un souvenir. Et ce jeu de souvenirs et d'attentes, ça fait ce qu'on appelle une culture, soit une somme de « ah, ça me fait penser à ». Voilà donc qui modèle notre champ d'expérience, un champ où il y a toujours pour parasiter le présent, une anticipation ou une évocation. Disons que ça donne un style propre à chaque canton d'humanité, même au sein d'une confession identique. Parce que le débat de l'homme avec son milieu, c'est toujours le milieu qui propose, mais il ne commande pas. Prenez le chrétien, par exemple. Quel rapport y a-t-il entre le christianisme doloriste et tragique du Castillan et le christianisme pragmatique du Nord-Américain? Si vous regardez bien les églises en Amérique du Nord, ou les lieux de culte, vous ne trouverez pas beaucoup de chemins de croix, vous ne trouverez pas beaucoup d'images de crucifixion. Disons que c'est une autre façon de croire. C'est vous dire que la réalité brute sans valeur ajoutée, ça n'existe pas, sauf en laboratoire. Le monde du sens n'est pas celui de la science. Prenez par exemple un système de parenté. Un système de parenté, bien sûr, il est ancré dans la reproduction naturelle, la reproduction sexuée. Mais un système de parenté, ça ne se réduit pas à des liens biologiques de filiation ou de consanguinité. C'est un système arbitraire de croyances, à base de règles et d'interdits qui n'existent pas dans la nature. Disons que un spermatozoïde et un ovule, ça fait un fœtus. Mais pour faire un petit homme, il faut beaucoup plus. Il faut des prohibitions, il faut des lois, il faut des mythes, bref, il faut du fantastique. Même un territoire physique comme celui d'une tribu ou d'une nation, même un territoire de chasse comme celui d'un clan de chasseurs-cueilleurs, c'est toujours investi de grands et de petits récits. C'est toujours doté d'un centre cérémoniel, de sites légendaires et d'azimuts chargés d'affects. Le nord n'est pas le sud, ça n'a pas la même signification. Disons que la nature a horreur du vide, mais la culture a horreur du plein. Et d'ailleurs, notre société d'aujourd'hui, notre société polluée, elle est peu ou prou ressentie comme l'ombre portée d'une autre, la vraie, la bonne, qui a déjà eu lieu in illo tempore, autant jadis, et qui s'est lamentablement dégradée depuis. Autrement dit, qu'on remplace ou non un archétype par une utopie, nous vivons toujours notre présent comme la copie d'une première édition perdue ou épuisée, la nostalgie n'est plus ce qu'elle était, ou bien comme la bande-annonce d'un long métrage sans cesse remis à la semaine prochaine. L'original manque, et ce manque, c'est ce qui nous fait courir. En sorte que notre existence ressemble à une sorte de couturière avant la générale, laquelle serait en fait roupie de Sansonnet, en comparaison avec la première, la vraie première, et vous allez voir ce que vous allez voir. Qu'en fera-t-il jour, camarade ? L'homme est un être qui s'attend, ou à défaut qui s'excuse d'être arrivé en retard, jamais à sa vraie place, jamais à la bonne heure, pré-ceci ou post-cela, et donc croyant. Le seul animal à pouvoir enseigner le réel n'a pas que des avantages. Ouvrez votre télé, et vous verrez les ravages causés par cette propension à entendre des voix qui ne sortent d'aucun larynx, et à s'exalter de visions qui ne doivent rien au nerf optique. C'est dans le journal du soir. Alors maintenant, si on prend au sérieux, je cite Valérie encore, cette structure fiduciaire qui exige tout l'édifice de la civilisation, on en vient à douter du sérieux d'un mea culpa très bien porté, pourtant comme celui-ci. Notre faiblesse a été de ne pas regarder la vérité. Moi, je me demande si on peut rien fonder de solide sur autre chose qu'une illusion, voire un pieux mensonge. Par exemple, cette idée qui a été nécessaire à la renaissance de notre pays après la libération, cette idée que l'école labo n'était qu'une poignée de salopards et que le peuple français avait appuyé la résistance tout au long de l'occupation. Cela a marché, bien sûr, parce que cela a aidé nos parents et nos grands-parents à reprendre du poil de la bête. C'était très opportun, très nécessaire et très flagrant, mais c'était une inexactitude, une croyance, qui n'avait pas pour mission de nous induire en erreur, mais de nous redonner la santé, en évitant, disons, auto-accusation, dépression ou psychasthénie dans la population. Enfin, je manque peut-être d'informations, mais je ne vois pas quelle nation, quelle civilisation, quelle obédience, quel parti a pu s'engendrer d'une vérité objective. Alors, attention, faut se méfier de ceux qui se méfient de tout. Parce qu'il y a des mensonges de bonne foi qui ne sont pas des leurres ou des stratagèmes, qui ne sont pas des entreprises conscientes de désinformation, dont une bonne technique de décodage, doublée le cas échéant d'une bonne paranoïa, pourrait nous débarrasser une fois pour toutes. Si les mythes n'étaient que des mensonges, ce serait beaucoup trop simple, même trop simple pour être vrai. Est-ce que le courage moral ne consisterait pas, au fond, à regarder en face nos autosuggestions, nos aveuglements indispensables, plutôt que la réalité des faits? Est-ce que le courage ne consisterait pas à penser que l'histoire ne s'arrêtant jamais, le fameux combat de la veille et du lendemain, le combat des vaines croyances du passé et des lumineux savoirs de demain, ce combat n'aura pas l'issue heureuse qu'on serait en droit d'attendre de l'instruction publique. Bref, la mort des idéologies, comme on dit, on nous l'annonce chaque décennie, mais c'est pas pour demain. Évidemment, nos croyances collectives, elles changent de couleur. Par exemple, la guérison des écrouelles par le roi de France le jour de son sac, ça nous semble complètement incroyable. Mais que la politique de l'offre va nous ramener demain la croissance, cela nous semble très raisonnable. Alors, les sociétés sont peut-être vouées à la superstition, mais on me dira qu'il y a du progrès de ce côté-là et que les croyances politiques, c'est mieux que les croyances religieuses. Pourquoi ? Parce que les croyances politiques, elles sont tournées vers l'avenir, alors que les croyances religieuses supposaient l'autorité du passé. Pourquoi ? Parce que le prophète, le sauveur ou le messie sont derrière nous, tandis que les croyances politiques transfèrent l'autorité au futur où nous attendent un nouveau gouvernement, plein de bonheur, plein de justice. Mais en réalité, quand vous y regardez de près, vous voyez que le point oméga est toujours un point alpha régénéré. Et au fond, qu'est-ce que les cultes de Staline, de Mao ou de leurs émules, qu'est-ce qu'ils voulaient ? Ben, ils voulaient un retour à des neiges d'antan. Ils voulaient que s'accomplisse une promesse déjà esquissée dans le passé, mais encore en pointillé. Disons que l'espérance qui mobilise, qui galvanise, c'est toujours un passé à faire revenir. C'est le second retour du Christ, c'est l'islam parfait de Médine, des origines, c'est le communisme primitif. D'ailleurs, le soviétique entendait réactualiser la commune paysanne russe, le Mir, un peu mythologique de l'ancienne Russie, et au fond les États-Unis d'aujourd'hui, qui est l'Israël du Nouveau Monde. Ils cherchent à regagner la cité sur la colline, entre guillemets. Matthieu 5, 14. Comme les Mormons de l'Utah, les saints du dernier jour, ils veulent retrouver le premier. Et au fond, dans quelle colonne classée au Brésil l'Église universelle du royaume de Dieu? Colonne politique ou colonne religieuse? Les deux, mon capitaine. D'ailleurs, j'observe que lorsque les croyances politiques n'ont plus rien de religieux, les croyances religieuses redeviennent politiques. Elles prennent le relais, si vous voulez. Preuve que les deux s'alimentent à un même combustible psychique. Alors, dans cet équivoque religion politique, on pense aussitôt à l'islam radical. À l'islam radical qui est à cheval sur le profane et sur le sacré, comme l'était naguère chez nous, je vous ferai observer. La chrétienté radicale. Parce qu'elle occupait à la fois la cathédrale et le palais. La chair et le trône. Alors, je ne vais pas entrer dans une analyse circonstanciée du terrorisme d'inspiration islamique. Sans oublier qu'il y en eut bien d'autres jadis, hein, d'inspiration chrétienne, d'inspiration juive, d'inspiration hindouiste et même bouddhiste, allez à Ceylan ou ailleurs. Mais en tout cas, sans entrer dans cette confrontation entre les croyances radicales, je me contenterai de ne pas faire confiance à la pièce de Voltaire « Mahomet ». C'est une pièce qui nous a légué un nom propre, devenu commun, le mot de séide. C'est une tragédie en vers, il faut évidemment la reprendre, hein, même si elle est assez ennuyeuse. Enfin, comment elle nous décrit le prophète Mahomet, juste avant son entrée à la Mecque ? Comme un tartuffe en armes, un pantin tireur de ficelles, un fourbe qui veut faire croire en une révélation dont il rit sous cape. Bref, un prophète qui manipule froidement ses lieutenants avec un seul but, mettre la main sur les trésors de la ville sainte. C'est un peu sommaire, non ? C'est une idée courte et qui témoigne du confort intellectuel où on s'installe quand on voit dans la naissance d'une religion une escroquerie, dans la croyance une ignorance, et dans les prophètes du Dieu unique, des manipulateurs cyniques et sans scrupules. Voir dans toute contagion religieuse le résultat d'une contamination malveillante, une sorte de manœuvre de guerre idéologique lancée par des faussaires avides de richesse et de pouvoir, non, excusez-moi, c'est du délire. Et je dirais même, c'est le délire aveuglant des Lumières. Et si un tel déficit de rationalité dans l'appréhension de l'irrationnel venait à passer pour le dernier mot du rationalisme critique, alors je vous le dis, l'Occident se banderait les yeux sans rien comprendre à ce qui lui arrive. Et c'est d'ailleurs bien ce qui lui arrive, en ce moment. Et il ne comprendrait rien non plus au fait que nos sociétés rationnelles, nos sociétés qui se targuent de ne plus prendre des vessies pour des lanternes, que ces sociétés-là connaissent une telle prolifération de courants sectaires, de gourous charismatiques, de parasciences, de guérisseurs et de rebouteux. Est-ce que c'est anormal ? Non. Je trouve ça tout à fait normal et qui ratifie le fait que une société sans croyance, c'est un peu comme un chat qui ne rêve plus, il devient fou, mais les hommes aussi, quand ils ne rêvent plus, ils deviennent cinglés. Et dangereux d'ailleurs. Vous empêchez quelqu'un de dormir et de rêver, surtout, ça en fait un individu très malheureux et plutôt dangereux pour ses voisins. Alors tout au plus, ce qu'on pourrait déplorer, c'est que les institutions qui régulaient jusqu'ici nos croyances, je veux dire les églises, les partis politiques, les écoles de pensée, les syndicats, que ces institutions, disons, qui séparaient l'autorisé de l'aberrant, qui séparaient la croyance licite de la croyance illicite, eh bien que ces institutions, elles tendent à s'effacer et même à disparaître, disons que elles n'ont plus l'autorité. On ne leur fait plus trop confiance. D'où une certaine privatisation de la croyance. Il n'y a plus de règles, comme on dit. Il n'y a plus de codes. Et comme la privatisation de l'économie et des biens collectifs et des services publics, ça rend la croyance énergumène, incontrôlable et même sauvage. En clair, excusez-moi de parler franchement, ça débloque et ça défouraille dans tous les coins. On pourrait parler d'une dérégulation de la croyance. Disons une dérégulation anarchisante, chacun croit ce qu'il veut, comme il veut, où il veut. Ça a des effets plutôt fâcheux, hein, c'est évident. Mais ça a des effets plutôt fâcheux quand vous regardez, par exemple, les terroristes d'aujourd'hui qui interprètent le Coran à la diable, si j'ose dire, dans n'importe quel sens. Parce qu'il n'y a plus, même s'il n'y a jamais eu d'église dans l'islam, il n'y a plus de véritable autorité théologique. Mais enfin, les effets sont évidemment fâcheux, mais je m'en tiendrai à ça. À cette chose qui me semble évidente, c'est que les Lumières nous avaient fait espérer une sorte de jeu à somme nulle entre la croyance et la science. C'est-à-dire que plus vous savez de choses, moins vous croyez. Et d'ailleurs, le grand Victor Hugo lui-même a dit « Une école qui s'ouvre, c'est une prison qui ferme ». Et il voulait dire, en fait, c'est une église qui ferme, ou un temple qui ferme. Et notre 19e siècle, dans ses fractions les plus éclairées, était sûr que plus il y aurait à l'avenir d'observatoires et de laboratoires, moins il y aurait de Savonarole et de Saint-Barthélemy, moins il y aurait de bûchers et de folie. Bon, bah écoutez, le pronostic ne s'est pas vérifié. Alors c'est vrai que l'intensité d'une croyance, ça peut se mesurer au nombre de gens prêts à mourir pour elle ou en son nom. Mais cette intensité-là, il n'est pas avéré qu'elle soit fonction d'un retard intellectuel ou d'un manque de connaissances. Vous savez, les kamikazes, ce ne sont pas des analphabètes. Et leurs donneurs d'ordre, encore moins. Reconnaître ce point de fait, à savoir que beaucoup de fondamentalistes sortent des facultés des sciences ou des instituts techniques, cela depuis 30 ou 40 ans, et dans tous les pays du monde, hein, je ne parle pas seulement de l'islam, mais des autres religions aussi. Pensez à l'hindouisme, et même au judaïsme ou à certains christianismes fondamentalistes. Ce sont des gens très savants. Alors, dire cela, c'est pas du tout se faire le zélateur d'une docte ignorance. Ce n'est pas du tout mettre la science en accusation, entendons-nous bien. Apprendre à distinguer le vrai du faux, ça reste la clé d'une civilisation digne de ce nom. Il n'y a pas de transaction possible sur ce point. La vérité, mesdames, messieurs, cela existe. Simplement, elle n'est pas seule au monde. Toutes nos erreurs ne sont pas rectifiables. Vous savez, on dit toujours qu'une vérité, c'est une erreur rectifiée. C'est vrai, dans l'histoire des sciences, c'est comme ça. Mais on a chez nous des erreurs qui ne sont pas rectifiables. Au fond, on peut se demander si la vérité qui est traditionnellement adéquatio rei et intellectus, adéquation entre l'esprit et la chose, si la vérité, ça ne concerne pas essentiellement le rapport de l'homme aux choses, ou avec l'homme en tant que chose, en tant que corps physique, si vous voulez, dans la médecine. Est-ce que la croyance, c'est pas plutôt le rapport de l'homme à l'homme ? Ou de l'homme avec lui-même. Et ça, aucun progrès scientifique, aucune révolution numérique, aucune gouvernance par les nombres, aucun pilotage des affaires humaines par des algorithmes, hein, qui est un rêve très contemporain, Eh bien, ça ne réussira à faire de la politique autre chose que ce qu'elle est depuis l'origine des temps, l'art de faire croire. L'art de faire croire qui est au fond le moyen le plus économique de faire faire, sans recourir à la coercition. Rien n'est plus rentable, si j'ose dire, que d'imposer sa volonté sans recourir à la force. Parce que ceux qui suivent votre volonté croient que vous avez raison. Mais je vais vous dire une chose, pour faire croire n'importe quoi aux autres, le plus sûr moyen est d'y croire soi-même, de toute son âme. Le stratagème, c'est pas une bonne stratégie. Ça marche moins bien que la ferveur et la sincérité. Alors, ce qu'on peut regretter, c'est, comme le remarquait, je crois, Ernest Junger, l'écrivain allemand, on ne peut pas prouver ce que l'on croit, mais on ne peut pas non plus croire ce que l'on prouve. Vous voyez le problème. C'est très embêtant. C'est très embêtant, pourquoi ? Parce que ça condamne au grand écart entre ce qu'on croit et ce qu'on prouve. Disons que le démontrable n'est pas le vitaminé, et le vitaminé n'est pas démontrable. D'où sort régulièrement un dilemme cornélien, une sorte de conflit d'intérêts, si vous voulez, entre notre besoin de savoir, notre besoin de coller au fait, besoin qui va nous désillusionner et peut-être nous couper les jambes, et puis notre besoin d'y croire, qui nous regonfle. Disons, un dilemme entre les appels de la lucidité, voir les choses en face, et les appels de la vitalité, c'est-à-dire bouger, remuer, y aller. Parce que le vocabulaire est bien fait. Croire, c'est croître. Croyance, croissance. Vous me direz que la justification biologique, ça manque un peu de panache. Mais au fond, contre la sclérose, est-ce qu'on n'a pas le droit de faire feu de tout bois ? Et je dirais que sous cet angle de vue, qui est au fond un angle de vie, il est permis de saluer dans la croyance un très net avantage évolutif pour les individus. Dût-il cet avantage se payer d'une entorse au bien-penser ? Disons qu'entre le vouloir vivre et le bien-penser, il y a une petite contradiction. Alors, c'est vrai, on peut regretter qu'il nous faille parfois choisir entre le discours de la méthode et l'instinct de conservation. Mais, reconnaissons-le une bonne fois pour toutes, croire, cela avive, cela réveille, cela irrigue, cela fait des enfants et des familles nombreuses. Le taux de natalité est beaucoup plus élevé chez les croyants, qu'ils soient cathos, juifs ou musulmans ou autres, que chez les sceptiques et les libres penseurs. Disons que l'illusion, ça aide à la reproduction, ce dont pourrait dissuader une plus sobre vue de l'état du monde. Ça donne en tout cas de la flamme, synonyme de force nerveuse, et du feu, synonyme de chaleur vitale. Certaines études médicales, ça va peut-être vous surprendre, ont montré que les grands croyants, comme les grands sportifs, avaient moins d'infarctus et de maladies cardiaques que les autres. Et que le paroissien a une meilleure espérance de vie que le jement-foutiste. Vous me direz que l'enquête a peut-être été déviée par la croyance de l'enquêteur. Enfin, il y aurait tout de même là de quoi conseiller au troisième âge de faire du sport, d'aller à la messe le dimanche ou à la nuit debout, place de la République, pour se maintenir en vie et disons peut-être même pour accroître ses chances de survie. Car le vieux, vous savez, physiologiquement, c'est celui qui décroît, au sens décroître. Et comme par hasard, c'est aussi celui qui n'y croit plus trop, moralement, à ses lubies de jeunesse. Et c'est pourquoi la vieillesse, au fond, n'est jamais loin du naufrage. Je me souviens de certaines compagnies de jeunes gens, les compagnons du devoir en l'occurrence, dont le plus vieux, me suis-je entendu dire quand j'allais les visiter, « Ah, lui, il est encore dans l'âge où l'on croit à quelque chose. Mauvais signe peut-être pour le discernement, bon signe pour le futur de cet apprenti compagnon. » On sait que dans les camps de concentration pendant la guerre, les déportés croyants, chrétiens ou communistes, et même francs-maçons, furent les plus résilients. Leur bouée de sauvetage leur a valu de ne pas sombrer dans le désespoir et de s'en tirer plus et mieux que les autres. Fouillons les archives et comparant plusieurs destins de naufragés dans les mers du Sud qui ont échoué sur des îles inhospitalières, Simon Leys a remarqué que les naufragés du Grafton, contrairement à d'autres moins chanceux, les naufragés hollandais du Batavia, qui se sont exterminés les uns les autres au XVIIe siècle au large de l'Australie, avaient pu survivre grâce à la lecture régulière de la Bible et un strict respect des commandements chrétiens. D'ailleurs, les réfugiés de l'île mystérieuse, le roman de Jules Verne, et l'île mystérieuse, elle est aussi proche de l'Australie, s'ils ont pu coloniser leur île déserte, c'était grâce à leur foi mystique dans le progrès scientifique, c'était grâce à leur religion de la chimie et de la physique. En somme, et je termine, je résume, la croyance, il faudrait la dire à la fois nécessaire et dangereuse. Ce qu'on peut dire également du fait de venir au monde, qui est une opération toujours un peu risquée, pour un mammifère prématuré à la naissance, pour un petit homme incapable de tenir sur ses deux jambes, pour le plus vulnérable des animaux. Mais si l'on admet, bon, qu'une fois né, on n'a pas tort de vouloir continuer, le vin est tiré, il faut le boire. Si l'on admet qu'une espèce vivante est fondée, du moins de son point de vue à elle, les brebis peuvent là-dessus avoir un autre avis que les loups. Mais si cette espèce vivante a raison de vouloir persister dans l'être, eh bien, nous sommes pleinement autorisés à voir dans les croyances humaines, illusions comprises, une ruse de la raison. Et personnellement, je n'hésiterai pas à inscrire la croyance en tête de liste de nos nécessités vitales, en tête de liste des aides à la personne, non remboursables par la sécurité sociale, je l'admets, mais propres à l'entretien de ce qu'on appelle la vie, à savoir, je vous rappelle la formule connue, à savoir l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Je vous remercie.
C'était Allons au fait, une émission proposée par Régis Debray, réalisation Rafik Zénine. Réécoute et podcast sur la page de l'émission sur le site de France Culture.